Bonjour, nouveau millésime, nouveau générique et toujours le même plaisir de vous retrouver au micro de La Terre à Boire, ce podcast que nous avons créé pour celles et ceux que le vin passionne, pour tenter d'en explorer tous les recoins d'un univers fantastique et toujours en mouvement. Le vin pour nous n'est pas seulement un breuvage, évidemment, le vin c'est de la culture, c'est de l'histoire et de la géographie. Le vin, ce sont aussi des sciences naturelles, biologie, géologie, on appelle ça aujourd'hui les sciences et vie de la Terre. Le vin, c'est aussi de la chimie, pour le meilleur et bien souvent pour le pire. Et puis, surtout, le vin, ce n'est pas un univers figé et immuable, mais bien un monde en perpétuel mouvement dont nous nous appliquons à décoder les grandes tendances, les virages et les modes. Ainsi donc, nous revoilà, le cartable est plein de bouteilles, la trousse farci de verre à pied et l'envie toujours intacte d'explorer avec vous le vin dans toutes ses dimensions. Ce 55e épisode s'intitule « Gabriel Vizzavona, où va le vin ?» Bienvenue dans La Terre à Boire. Bonjour Gabriel Vizzavona.
Bonsoir.
Tu es journaliste, critique de vin, tu rédiges des articles dans tout un tas de médias et sur le web. Tu donnes des conférences dans le monde entier également sur le vin, dans des écoles, tu donnes des cours également. On peut trouver pas mal d'infos et certaines de tes interviews sur ton site gabrielvizzavona.com que j'invite chacun à aller découvrir. On peut évidemment te suivre aujourd'hui sur Instagram, le réseau sur lequel tout le monde est et doit être, en tout cas quand on fait de la presse, et on en reparlera je pense quand on parle de vin aujourd'hui, une grande partie des choses se passent sur Instagram. On va revenir dans un instant sur ton parcours. Laisse-moi d'abord te présenter les personnes autour de la table. Aujourd'hui, elle est sommelière au restaurant La Truffière, un des restaurants doté d'une des plus belles caves à vin de Paris et donc du monde. Bonjour Florence Aragoni.
Bonjour.
Ça va, t'as passé de bonnes vacances ?
Professionnel les vacances.
C'est ça, je sais en plus. Elle a surtout travaillé, Florence. Il aime le vin au point de poser des jours de congé pour pouvoir aller faire les vendanges gratuitement dans le Beaujolais. Bonjour Patrice Defay.
Bonjour.
C'est vrai ?
C'est vrai.
On est tous dans les starts pour aller faire les vendanges chez Philippe Viette. On y reviendra. Et il attaque lui aussi sa troisième rentrée au comptoir du Wine Therapy, comme ce podcast. Bonjour Laurent Delceau.
Bonjour.
Laurent, tu as la parole, je te propose de la garder. On va revenir à Gabriel tout de suite puisque c'est notre invité. Mais d'abord, tu nous as servi un petit vin d'accueil pour fêter ce troisième millésime. Qu'est-ce que c'est donc que ce vin ?
Eh bien, c'est un vin blanc, a priori, hein, de ce que vous pouvez voir. J'ai gardé une chaussette sur la bouteille pour que vous ne soyez pas tout de suite... marqué par l'étiquette et que vous fassiez.
Pour vous rassurer, c'est une chaussette viticole, hein, c'est pas une vraie chaussette.
D'accord.
C'est pas une chaussette de Laurent.
Ouais, ouais, non, c'est une chaussette givrante en plus. Donc c'est un vin blanc. Je vous laisse un petit peu peut-être justement en parler chacun de ce que vous ressentez, puisque bon, c'est quand même le propre du wine therapy, c'est de vous faire découvrir des vins plutôt à l'aveugle. Donc,
tu nous entreprends
on joue le jeu.
Un peu comme tu entreprends tes clients habituellement, en leur servant un verre, sans qu'ils sachent de quoi il s'agit. En général, ils comparent entre deux ou trois et ils choisissent leur préféré.
Oui, tout à fait. Et donc là, c'est un blanc qui, en ce moment, a pas mal de succès au wine therapy, dans les tiercés que je propose sur des blancs secs, avec un petit peu de gras quand même. Il a tendance à pas mal plaire à la plupart des clients. Donc j'espère qu'il va vous plaire à vous aussi.
Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aime bien. Autour de la table. Gabriel, un avis sur ce vin ?
Moi, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, mon verre est presque vide. j'ai pas dû en avoir assez, suffisamment. Je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie. J'aime bien dans ce vin-là. On sent que c'est un vin qui est fait d'une façon assez respectueuse de l'environnement. J'aime bien les arômes un peu mandarine, les notes un peu grillées. En bouche, il y a vraiment cette belle énergie. Il y a de la fraîcheur. On est en Bourgogne.
Eh bien, c'est ça qui est très surprenant, parce qu'effectivement,
on savait que c'était un piège.
C'est un cépage qui évoque la Bourgogne, hein. C'est bien du Chardonnay.
C'est du Chardonnay.
Oui, c'est
du Chardonnay, mais alors il vient de bien plus au sud, il vient de l'Aude,
d'accord.
De la vallée de l'Aude. Il est en appellation Limoux.
Ok.
Donc c'est un chardonnay avec une pointe de chenin blanc, pardon, je vais dire mosaïque, mais de chenin blanc. C'est le domaine des Hautes-Terres, donc à Limoux. C'est Gilles Azam, le vigneron. Et il se trouve que c'est un terroir qui bénéficie de beaucoup de fraîcheur et ce qui donne cette belle vivacité au vin qu'on pourrait effectivement mettre sur le dos de la Bourgogne. Mais là, on est bien plus au sud.
Moi, j'aurais dit sud de la Bourgogne.
D'accord.
Parce qu'effectivement, on reconnaît assez bien le chardonnay. J'aurais pas soupçonné le chenin blanc, mais je trouve que maintenant que tu me le dis, ça apporte quelque chose d'intéressant. Ça complexifie le vin. Très belle fraîcheur. J'aime bien comme ça ces pépites un petit peu... ces originalités qu'on peut avoir dans nos vignobles.
C'est un vin qui illustre pas mal le thème qu'on va aborder, qui est les tendances, la mode. Ça, est-ce que c'est un vin moderne, le fait de faire du chardonnay dans l'Aude?
Les originalités, de toute façon, ressortent, mais les tendances, il faut déjà isoler les tendances pour quel marché. C'est-à-dire qu'il y a autant de tendances que de marchés démographiques. Donc, on peut prendre les tendances globales pour un pays et ensuite tu vas avoir les tendances en région parisienne pour une certaine démographie. Et ça, il faut bien les segmenter si on veut parler de tendances. C'est un vin qui est une originalité, donc ça peut attirer une certaine type de clientèle, mais ce type de clientèle-là que ça va attirer, ces originalités, c'est des gens qui sont déjà éclairés au vin, qui ont cette curiosité d'aller hors des sentiers battus.
Je pense qu'effectivement, le Languedoc reste encore une région qui suscite moins d'intérêt chez beaucoup de gens, beaucoup de clients classiques, alors que c'est très coté sur une population qui, au contraire, est curieuse du vin, qui va fréquenter des bars à vin. Évidemment, on a beaucoup de demandes sur le Languedoc, mais il y a toute une frange de la population qui pense encore que la France, le vignoble français, c'est... Bourgogne et Bordeaux, et on va pas au-delà, ou alors on est très très aventureux, on va sur le Rhône, mais le Languedoc, franchement, c'est pas des jolis vins.
Écoute, moi j'ai choisi un Languedoc aussi. Pour moi, c'est une des régions les plus intéressantes du moment. Je trouve que le Languedoc n'a jamais aussi bien goûté. T'as des appellations qui sont vraiment des pépites, c'est sous-coté en termes de rapport qualité-prix. Les gens travaillent très bien. Je trouve que c'est une des régions les plus excitantes de France. Pour moi, je suis en train d'écrire d'ailleurs sur le Languedoc en ce moment. J'ai pris, comme je te disais, un vin du Languedoc, de l'appellation Minervois la Livinière. Donc, effectivement, c'est un territoire dans lequel j'ai été il y a quelques mois et que j'ai envie d'explorer vraiment de fond en comble cette année.
Oui, puis effectivement, enfin, ce qui serait un peu de tendance générale, c'est qu'on essaie de travailler le sud, le Languedoc en particulier, de plus en plus dans la fraîcheur. Et maintenant, on y arrive en allant chercher effectivement, j'imagine, des territoires, des terroirs d'altitude. Alors, je ne sais pas si le chenin rentre dans la Haussée Limoux.
C'est ce que j'allais dire. Moi, l'originalité de ce vin, je trouve que c'est le fait de mettre du chenin. Parce que bon, finalement, le chardonnay dans le Languedoc, ça commence... c'est plus si moderne, c'est plus si récent et c'est plus si nouveau que ça. Mais d'associer avec un peu de chenin dans l'assemblage, ça, c'est quelque chose de moderne. Après, dans le vin, c'est vrai qu'on parle de modernité. Il faut quand même savoir que la vigne, il faut 4 ans une fois qu'elle est plantée pour pouvoir commencer à récolter et pour pouvoir en faire quelque chose. Donc c'est les modernités, les tendances, enfin c'est des tendances, il faut être patient
venir.
Quoi,
ouais,
hein.
Ouais, tout à fait, ouais.
Il faut être patient.
Sur le millésime, on n'a pas dit, c'est un vin jeune.
Millésime 2017, non?
Ils expérimentent beaucoup dans le Languedoc avec des cépages qui n'étaient pas leurs cépages traditionnels aussi.
Pour parler un tout petit peu de toi, Gabriel, qu'est-ce qui t'a amené à devenir, à faire le métier que tu exerces aujourd'hui, de critique de vin, de journaliste sur le vin, tu écris sur le vin, tu donnes des conférences, des cours. Comment ça s'est passé tout ça?
Écoute, moi j'adore le vin depuis que je suis vraiment petite, depuis que je suis enfant. Mon premier dossier scolaire à l'école quand j'avais 8 ans, c'était sur le vin. Je m'en souvenais plus, ma mère l'a retrouvé. J'ai vinifié aussi à l'école avec ma maîtresse d'école qui était passionnée de vin quand j'avais 9 ans. Mon grand-père avait un vignoble en Côte du Castillon. Donc, je sais pas, ça me fascinait comme univers, comme monde. Mais j'ai des parents qui sont scientifiques, donc j'ai attendu un certain temps avant de m'émanciper de ce que mes parents imaginaient que j'étais censée faire. Donc j'ai fait des études d'économie d'abord, et puis ensuite les métiers sur lesquels ça menait me barbaient complètement. Donc j'ai repris des études sur le vin, 4 ans quand même, dont 2 ans à temps complet, 2 ans où j'avais déjà commencé à travailler. J'ai toujours voulu être indépendante, avoir ma propre structure et avoir des activités qui étaient diversifiées. Donc je les ai construites peu à peu. Voilà, aujourd'hui, j'ai un portfolio d'activités qui est intéressant et que j'essaye d'élargir encore plus même.
On peut lire, je parlais du site internet tout à l'heure. Moi, j'ai évidemment parcouru le site. Il y a 2 interviews que j'ai envie de mettre en avant pour ceux qui voudraient aller y flâner. C'est 2 gens dont on a parlé déjà dans cette émission. Lalo Bise-Leroy, d'abord, en Bourgogne, qui est vraiment une très belle interview, un peu dans la longueur. Hein. Je pense que ça dure. Il y a quand même de la matière. On apprend des choses sur la dame, sur sa façon de faire les vins, sa façon de voir le vin de manière générale. Et autre personnalité un peu du monde du vin, Emmanuel Reynaud au Château Reyes, voilà, qui lui aussi parle avec toute la passion. Et puis cette réflexion-là, pour moi, ça font partie des philosophes du vin, des gens qui ne font pas du vin, c'est pas des viticulteurs, c'est vraiment des vignerons au sens noble.
Qui sont très animés. Je rêvais de les interviewer, les deux. Ce sont les interviews que j'ai faites pour le Figaro, mais les versions que je mets sur mon site, c'est les versions longues, parce que c'est forcément, on est restreint en termes d'espace. Et je voulais les publier en entier. Rencontre très inspirante, Lalo Bise-Leroy, enfin, c'est des rencontres qui sont un petit peu, alors, je ne sais pas s'il faut dire solaire ou lunaire, mais en tout cas, quand je me retrouve dans sa cuisine le midi, après avoir goûté tous les vins au fût avec elle, c'était les 2015, qu'elle me fait, elle est en train de me cuisiner à la poêle un peu de saumon et qu'elle me sert quelques vins, elle me dit « Non, mais ça, c'est pas possible, Gabriel, ce sont des bébés qui crient. » Et puis elle m'ouvre un Vaune Romanée 55 dans la cuisine, comme ça, au déjeuner. Emmanuel Reynaud, par contre, alors j'ai tout goûté avec lui au fût. Je me suis bien entendue avec lui, ce qui est a priori pas le cas de tout le monde. Mais par contre,
des objets qui tombent,
c'est pas grave. Des objets qui tombent, tant que c'est pas de vin ni de verre qui a cassé. Mais par contre, il m'a pas ouvert de bouteille. C'est compliqué après de juger certains vins quand on peut pas les goûter, même si c'est rare. Hein. C'est les
uniquement au fût, quoi. La vérité,
voilà,
du fût.
Voilà, exactement.
Pour aller chercher la modernité, la tendance, les modes, je vous propose juste de passer en revue quelques thèmes. Est-ce qu'il y a des cépages à la mode ? On a déjà dit un petit mot. Le chardonnay dans le sud, bon, d'accord, déjà vu, mais le fait d'ajouter du chenin, de faire un chardonnay chenin, c'est ce que tu disais, Florence. Bon, là, c'est déjà un petit peu plus novateur. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des cépages qui sont un peu has-been, qu'on n'a plus envie de voir ? Je me rappelle, Laurent, que tu nous avais parlé un jour de tes clientes américaines qui disaient « ABC, anything but chardonnay ». Tout sauf du chardonnay. Il y a une sorte de désamour pour le chardonnay.
Les anglo-saxons ont un rapport avec le chardonnay qui est assez radical.
Ils en ont tellement bu.
Parce qu'effectivement, il est très boisé aux États-Unis, en Californie. Et donc, c'est considéré un petit peu comme, par une frange de la population, en tout cas de ma clientèle, un peu comme vulgaire, le chardonnay californien. Bon, faut dire qu'il est un peu racoleur. Mais donc, j'ai effectivement des clients qui... On a cette expression dans les pays anglo-saxons des clients ABC, anything but chardonnay. C'est assez amusant. C'est d'autant plus amusant qu'en général, dans ma sélection, je leur propose un chardonnay et qu'il n'est pas rare qu'elles choisissent le chardonnay comme bien étant sûr leur vin préféré, parce qu'il est tout simplement plus sur le fruit, beaucoup moins boisé que ce qu'elles connaissent, elles, par rapport à... Et je dis elles parce qu'effectivement, le vin blanc, là aussi, il y a peut-être des tendances à voir. Est-ce que c'est moderne, pas moderne, je ne sais pas. Mais il est souvent de bon ton pour un homme de prendre du rouge et pour une femme de prendre du blanc. Et ça, c'est moi, ça me sidère, parce qu'évidemment... je suis un peu à contre-courant, moi j'aime de plus en plus les blancs. Donc.
J'ai lu quelque part, je ne saurais pas citer la source, mais que effectivement le blanc était vraiment en gain de part de marché, pour parler marketing, et qu'on vend de plus en plus de blanc, que la part du blanc commandé au restaurant est en progression. Florence, tu constates ça toi ?
Oui, beaucoup, parce que je pense que ça va aussi avec les modes et les tendances des chefs et des cuisines que l'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des cuisines qui demandent des vins avec un petit peu plus de finesse, un petit peu plus de souplesse et surtout beaucoup plus de fraîcheur. Et moi, je vois sur nos menus dégustation, J'ai deux entrées végétales, j'ai deux plats de poisson, et puis j'ai un plat de viande, un plat de fromage et deux plats de dessert. Et finalement...
C'est déjà un bon repas, ça.
Le plat de viande, bah oui, plus classiquement, on est sur un bel accord avec du rouge, mais finalement, tout le reste, les végétaux, les poissons, et même le fromage, parce que ça y est, maintenant, les gens commencent à comprendre et à apprendre que le fromage, ça s'accorde quand même 90% du temps bien mieux avec un blanc qu'avec un rouge. Donc finalement, presque tous les plats vont mieux avec le blanc que le rouge, mis à part le plat de viande, et encore que cet été on a fait de l'agneau, on fait des très beaux accords blanc et agneau, donc finalement bah oui, dans une clientèle qui va choisir un accord mets et vins, eh ben on va lui présenter majoritairement plus de blanc, mais moi je trouve que la demande de la clientèle reste encore très axée, je préfère le rouge que le blanc, parce que je ne saurais pas exactement dire, il y a toujours quelques clients qui disent oui mais le blanc moi ça me donne mal à la tête, alors
oui, ça revient tout le temps, le blanc donne mal à la tête,
je préfère le rouge.
C'est une drôle d'idée ou...
C'est lié au soufre.
Ben oui.
Il y a plus de soufre.
Ça permet justement peut-être d'évoluer sur un autre aspect de la modernité, c'est la chasse au sulfite.
Oui, Florence.
Bah, on parle beaucoup des vins sans soufre. Bon, faut savoir quand même que durant le procédé de vinification, il y en a qui se produit un petit peu naturellement.
C'est sans soufre ajouté, on devrait toujours dire ça.
Un petit peu. Moi, je trouve que, comme tout, il y a eu des abus. Des utilisations de soufre à des doses pas possibles. Ça, c'est un problème de quand on ne sait pas bien travailler au chai ou quand on ne sait pas bien travailler à la vigne. C'est un médicament que l'on peut utiliser et dont on a abusé. Maintenant, c'est vrai que moi qui suis face à la clientèle, ça m'arrive très souvent de leur dire... oui, non, celui-ci, il n'est pas forcément nature sans soufre ajouté, mais je pense que vous pouvez quand même le goûter et que vous aurez pas mal à la tête, parce que faut savoir que du soufre, en agronomie, on en ajoute un petit peu partout. Donc les gens font la chasse au soufre dans leur bouteille de vin, mais ils ne font pas la chasse au soufre dans ce qu'ils mangent, dans leurs plats qu'ils achètent tout près, dans leurs plats préparés. Il y en a énormément. Il faut savoir que toutes les sauces qui sont préparées par l'agronomie, elles sont toutes pleines de soufre. Donc c'est bien de faire la chasse au soufre dans la bouteille de vin, mais faites la chasse au soufre partout.
C'est devenu une obsession même, alors qu'il y en a partout. Gabriel,
moi,
tu voulais réagir.
Moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il y a malheureusement, il y a quelques prescripteurs du vin nature autoproclamés qui ont mal compris les débats en termes de comment ça intervient au niveau des vinifications. Bien sûr qu'un vigneron qui a une approche saine va vouloir mettre un minimum de soufre, mais il faut à ce moment-là qu'il y ait une approche qui aille plus loin, c'est-à-dire que la vigne ait réussi par des techniques biologiques ou biodynamiques à avoir développé suffisamment d'anticorps pour pouvoir faire que le vin ensuite puisse se défendre aux agressions. Je fais beaucoup d'achats à l'étranger et parfois on m'a demandé de sélectionner des vins sans soufre et quand ils arrivaient ils étaient un petit peu malades. Le soufre, effectivement, comme tu l'as dit, lors du processus de vinification, parce que les gens en mettent sur les vignes, il y en a toujours un petit peu. Donc, vin sans soufre, c'est jamais complètement sans soufre. C'est en dessous des limites de différentes catégories de vins qui vont faire que ça va être considéré nature ou pas. Aujourd'hui, il y a une confusion qui est une confusion liée au vocabulaire où on appelle tous les vins nature. On mélange le bio, la biodynamie, le sans soufre, etc. Ce qui fait que le consommateur a vraiment du mal à s'y retrouver.
Nature, ça veut rien dire. Il n'y a pas de label.
Il n'y a pas de certification. Donc, ça, effectivement, je suis d'accord avec toi.
Le fait est que je pense qu'on est aujourd'hui dans une situation où il n'y a jamais eu aussi peu de soufre dans les vins, globalement. Et tout le monde fait cette chasse aux sorcières. J'ai évidemment souvent des clients qui me disent est-ce que vous avez des vins nature? Bon, déjà, qu'est-ce que vous appelez vin nature? Alors, hop, tout de suite, l'association d'idées, vin nature égale sans soufre. Bon, c'est effectivement pas le cas. Je crie encore ici parce que ça m'énerve. Ce n'est pas que ça, normalement, un vin nature. C'est un vin dans lequel on a le moins d'intrants possible, voire pas d'intrants du tout. Et il ne faut pas se limiter à l'utilisation des sulfites qui, comme tu le disais, Florence, sont vraiment partout. C'est énervant de voir quelqu'un qui boit du coca, d'y réclamer du vin nature parce que sinon, ça lui fait mal à la tête. Quoi. Le coca va lui faire certainement beaucoup plus mal à la tête
au
final.
Dans la charcuterie ouais. industrielle, je crois qu'il y a 20 fois plus de sulfites que dans un vin soufré.
On arrive même à un paradoxe total où l'industrie s'est emparée de cet argument du sans soufre ajouté pour la coller sur des bouteilles et effectivement ne pas ajouter de soufre dans des vins pour lesquels en fait le processus en amont a été de mettre de la chimie, de pas du tout être dans une démarche nature. C'est juste de faire du vin industriel avec de la chimie à la vigne et puis à la fin, au moment de la vinif, on flash pasteurise les vins. C'est toi, Laurent, qui m'a expliqué ce système
oui, effectivement,
pour éviter de mettre du soufre. Donc on trompe clairement.
On tue le vin pour ne pas mettre de conservateur et on se réclame effectivement du sans sulfite ajouté. Bah, c'est très bien, mais ça laisse un vin qui n'a plus de vie.
Autre chose sur cette question du sans soufre.
Le fait qu'on le sans soufre, on en avait parlé un petit peu avec celui qui l'a quand même pas mal créé, c'est Pierre Auvernois, qui disait qu'effectivement on a effectivement pas mal à la tête, on a mal au foie et c'est le mal de foie qui donne mal à la tête. Donc c'est l'excès de soufre. Après c'est des aspects de logique. Il y a des gens qui réussissent à faire du sans soufre et ça reste des bovins, mais effectivement faut que.
Il y a une grande partie qui sont quand même. Qui font des vins qui ont des défauts et que maintenant un certain public analyse comme si c'était comme ça que devait être un vin. Non, un vin, c'est pas censé être oxydé à l'extrême, c'est pas censé avoir des bulles, en tout cas pas un vin sec, c'est pas censé refermenter une deuxième fois en bouteille. Donc il y a beaucoup de vins biaisés qui ont des brettes, qui sont défectueux et on voit ça comme la norme.
On a beaucoup de clients qui sont à la recherche de ces brettes, justement. Ouais. S'il n'y a pas les brettes, c'est pas nature, c'est pas bon.
Ça sent pas la ferme.
Et voilà.
Alors, une pinte de brettes, ça peut complexifier un vin, mais si ça sent le cul de poule ou le... Il y a tout un vocabulaire...
Puisqu'on en est là à essayer de chercher les tendances et les modes, il y a aussi quand même cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il y a comme une nouvelle clientèle de vin qui va s'attendre à trouver dans le vin des choses qui, pour vous, sont rédhibitoires et qui, peut-être pour elles, vont devenir... un peu des standards.
C'est comme si les gens avaient découvert il y a quelques années que le vin était un produit de modification. Ah, il n'y a pas que des raisins dans le vin. Non, il peut y avoir pas mal de trucs dans le vin. Et là, tout de suite, on est passé d'une extrême à l'autre, où finalement, il y a une paranoïa sur ce qu'ils vont trouver dedans. Et ça donne lieu à certains styles qui sont recherchés comme si c'était censé être la norme, comme « Ah bah non, mais laissez votre vin ouvert un mois dans la cuisine, il va s'ouvrir, c'est normal s'il est comme ça. » Donc voilà, mais après ça, nous on est à Paris, on va aller dans ce type de lieu-là, mais en fait c'est un tout petit pourcentage de la population, ça c'est une micro tendance très très hipster, très bobo.
Alors à un moment j'ai envie de passer un son de notre camarade Philippe Viette que je salue, qui est donc habituellement autour de cette table, qui fait partie de l'équipe du podcast et qui est vigneron et qui est en train de préparer sa première vendange et que j'ai appelé ce matin. Je vous propose qu'on l'écoute, ça dure une minute et on va rebondir dessus parce qu'il parle exactement de ce dont on est en train de parler.
Je pense que ce qui est has-been aujourd'hui, c'est de, pour mettre les pieds dans le plat, c'est cultiver en conventionnel, voilà. Ça c'est has-been. Je pense que aujourd'hui on est dans des démarches de durabilité, de respect de son terroir et puis de mettre le moins d'intrants possible dans ses vignes ou dans ses vins. Donc ça c'est l'avenir. Je pense qu'on parle beaucoup de cépages résistants pour éviter justement, pour arrêter de mettre des pesticides ou des intrants dans les vignes. Je pense que c'est un pansement sur une jambe de bois parce que la question que je me pose c'est les cépages originels dans nos régions, en fait ils ont mis des années à s'adapter au sol et à exprimer un terroir, une expression d'un cépage lié justement à l'implantation dans un sol granitique ou un sol calcaire ou un sol argileux ou un sol sableux. Avant que toute cette chimie, nos anciens, eux, ils arrivaient à se débrouiller sans cette chimie-là. et à faire du vin. Donc, enfin, pourquoi il faudrait qu'on utilise des cépages résistants, qu'on arrache des cépages historiques pour mettre des cépages résistants qui, pour l'instant, vont mettre des années à exprimer les caractéristiques d'un terroir.
Est-ce que pour en revenir à ce que disait Philippe dans le son qu'on a écouté, la tendance de fond, c'est pas simplement déjà d'être propre, d'être...
Bien sûr, mais ça c'est une grosse tendance mondiale. Pour moi, les vins qui ne sont pas, en tout cas là je parle d'une viticulture d'artisanat, pas d'une viticulture industrielle, la viticulture d'artisanat, les vignerons qui ne seront pas en bio dans les 10 années à venir ou qui n'auront pas une certification de ce type-là, bio, biodynamique, etc., seront en danger. Il y a vraiment, c'est une tendance, le consommateur s'attend à une certification, même si elle peut être hypocrite, la certification, même si elle a ses défauts. Et en tout cas, oui, les gens s'attendent à un respect global de l'écosystème, à travailler ses vignes d'une façon qui inclut la nature et qui soit le plus respectueuse possible de l'environnement et des gens.
Un avis sur... pardon, Laurent.
Oui, en fait, c'est ce que tu dis, j'ai envie d'y croire, parce que je pense que c'est ce qu'il faudrait qu'il se passe. Maintenant, on constate quand même que 85% des volumes de vin vendus sont quand même axés sur le prix.
C'est pour ça que je t'ai précisé vin d'artisanat.
Oui.
Les vins industriels, ouais. Ce sont les vins qui sont en dessous d'un certain prix, qui sont faits en grand volume. Là, ça va être très compliqué pour tout le monde de passer en bio. Ils ont tout intérêt à le faire aussi, mais ce ne sera pas forcément leur esprit. Ce ne sera pas non plus ce que vont rechercher les consommateurs qui achètent ce type de vin-là. Mais si on parle d'une viticulture artisanale, pour moi, c'est indispensable qu'il y ait ce travail qui soit fait sur... Alors, on peut appeler ça, en l'occurrence, peut-être les vins vivants, la naturalité. Après, on peut prendre plein d'adjectifs influx. Différents. Mais...
Non mais on en avait déjà parlé, il me semble. Il y a des vignerons qui jouent pas le jeu et qui veulent pas passer en bio, mais qui vous disent attention, on est vertueux, nous on est HQE. C'est pas parce que sur le chai il y a des panneaux solaires que ça veut dire que ton vin il y aura moins de pesticides dedans. Donc
À propos de pesticides, est-ce que vous avez un avis sur ce que disait Philippe sur les cépages résistants? On lit régulièrement des papiers là-dessus. Il y a des nouveaux cépages qui arrivent. On travaille génétiquement, en gros, les cépages pour...
Bah là, c'est une obligation qui est liée au réchauffement climatique, au changement de nature. Il n'y a pas que ça aussi. Il y a plein de nouveaux cépages qui arrivent. Il ne faut pas non plus que ce soit des hybrides qui perdent...
C'est rajouter de la technologie finalement, parce que c'est on va éviter de faire de la chimie, on va faire de la génétique à la place de la chimie.
Moi je suis assez sceptique.
Est-ce que c'est cette direction-là qu'on a envie de prendre, ou est-ce que c'est pas... Ben, on a des cépages, comme le disait Philippe, ils sont là depuis des siècles, voire des millénaires, ils ont évolué, ils s'habituent au terroir, on commence à les maîtriser. Pourquoi créer des nouveaux cépages qui vont être résistants aux pesticides plutôt que... Ben, arrêter de mettre des pesticides,
accepter aux maladies.
Résistant aux maladies, oui. Parce que, oui,
ça va quand même vers un appauvrissement génétique malgré tout, parce que c'est comme quand on est dans une assemblée, ce qui va faire la richesse d'un groupe, ça va être la diversité des personnes qui sont là, ce qu'ils ont à apporter. Donc effectivement, là, si on joue sur la génétique, on essaye de créer l'individu parfait qui va pouvoir réagir à tout, qui va pouvoir être... On perd en goût, on perd en identité, on perd en caractère. C'est normal, c'est comme s'il y avait l'individu suprême, ça n'existe pas.
On a déjà eu un gros problème, ça y est, les vignerons, ils en reviennent, mais il y avait déjà le souci de la sélection clonale. Oui. Donc il y a quand même certains vignerons qui en reviennent et qui maintenant, quand ils replantent en faisant des sélections massales et non pas en faisant des sélections clonales.
Qui est plus fragile. C'est-à-dire,
la sélection clonale, c'est on prend un pied de vigne et on reproduit ce pied de vigne 100 fois et on replante ce pied de vigne, alors que la sélection massale, on prend dans son carré de vigne plusieurs pieds de vigne qui vont bien. Et c'est cela qu'on replante. Maintenant, je pense que moi, j'ai un avis un petit peu partagé sur la question. Est-ce que ça peut pas être intéressant des nouveaux cépages? Pas tant pour une histoire de résistance à la maladie, mais parce que nos cépages sont bien adaptés à notre terroir. oui, ils sont bien adaptés à notre terroir aujourd'hui, sauf que notre terroir, le sol, lui, ne change pas trop et n'évolue pas trop, mais nos conditions climatiques, elles, sont en train de changer énormément. Donc, il va peut-être falloir quand même réfléchir au niveau de nos cépages que l'on plante. Mmh.
Cette réflexion, pas... elle est déjà en marche.
Ça, c'est déjà le cas dans plein de régions.
C'est pour ça qu'on va planter en Angleterre, qu'on plante dans des régions qu'on avait un petit peu abandonnées parce que trop de pluie, parce que machin. Maintenant, après, il y a des régions qui avaient du soleil, de la pluie, c'était bien dans le Languedoc. Dans le Languedoc, ils ont ou dans la Corse, par exemple, ils ont des vrais défis climatiques parce qu'ils ont des problèmes d'eau. Donc, est-ce qu'on arrose? Comment on fait? Est-ce qu'il faut irriguer?
Alors ça, je pense que c'est un autre débat. Ils ont le droit, dans le sud, à certaines périodes, d'irriguer un tout petit peu. En ce qui concerne ce dont on parlait sur les cépages, une autre grosse tendance qui est opposée à celle de créer des hybrides, c'est les cépages oubliés qui viennent à la rescousse. Et puis, effectivement, c'est une problématique qui est déjà très, très, très palpable. C'est-à-dire qu'il y a plein de régions viticoles françaises et aussi dans d'autres régions qui commencent déjà à changer les pourcentages de leur encépagement. On le voit, par exemple... On n'a pas besoin d'aller super loin. Hein. Bordeaux vient d'accepter l'appellation Bordeaux vient d'accepter 3 nouveaux cépages. On le voit à Saint-Émilion avec le cépage Merlot qui diminue un petit peu en faveur du Cabernet Franc. Enfin, le réchauffement climatique change la donne et avec ce réchauffement climatique, l'encépagement est modifié en faveur de cépages qui vont mieux s'habituer et qui vont apporter aussi, qui vont soutenir le goût du moment. On parlait tout à l'heure du blanc. J'en profite pour rebondir là-dessus. On disait que le blanc est plus populaire, etc., parce qu'il s'inscrit aussi dans un goût du moment, c'est-à-dire pour la minéralité, pour la tension, c'est-à-dire la fraîcheur, et aussi pour le retour de l'amertume comme une vertu et non comme un défaut.
Amoureux du chenin et de son amertume. Gabriel, garde la parole parce que tu as apporté le deuxième vin.
Eh ben, on reste dans le Languedoc. C'est un vin que j'ai goûté il n'y a pas longtemps. J'ai été visiter cette appellation que je trouve fantastique. On est en Minervois-la-Livinière. C'est un vigneron que j'aime beaucoup, qui a participé à la création de l'appellation. Et c'est le domaine Bory de Morel, Scylla 2016. Et je trouve ça très sensuel, très charmeur comme vin. J'aime bien le côté tarte aux prunes, tarte aux cassis vibrant, sortant du four, le côté vapeur de maquis séché comme ça, la réglisse. C'est des vins qui ont beaucoup de profondeur, qui ont aussi de la tension. C'est un vigneron qui travaille, Michel, extrêmement bien.
Le caviste m'a dit que c'était un ancien élève de Renaud à Reyes.
Tout à fait, ouais. Et puis c'est une personnalité, moi j'aime comme ça les personnalités attachantes. On a parlé de Reyes, on a parlé de la Loubise le Roi, etc. Pour moi, les meilleurs vins au monde sont des vins faits par des vignerons qui mettent une énergie particulière. Et donc lui, c'est son cas, c'est-à-dire que le vin doit être incarné et représenter un petit peu la personnalité du vigneron. Pour moi, là, on est complètement aligné avec la personnalité du vigneron. Et quand on voit comme il travaille... On ressent à la dégustation qu'il y a cette énergie, cette intention qui est supplémentaire, qui compte beaucoup. Alors on peut parler de... Pour moi, c'est une tendance aussi, ce rapport à l'énergie. On peut parler d'énologie quantique ou... ouais, on va rester longtemps là, c'est pas fini l'émission. Mais en tout cas, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut tous sentir intuitivement et qui fait que certains vins, comme certaines personnes, séduisent plus que d'autres. Et qu'on a une compatibilité supérieure avec certains qu'avec d'autres.
Tu confirmes, moi, que je le trouve très séduisant. C'est une pure Syrah. Hein.
Syrah 70%, complété à parts égales de Grenache et de Carignan.
Qu'est-ce que vous en pensez de ce vin ?
Oui, c'est très, enfin, le nez est hyper, hyper séducteur. Et là, encore une fois, on est sur quand même une tendance aussi des vins du Sud à pas être trop chaleureux, trop dans l'extraction, mais plutôt dans l'infusion. Donc là, on est plutôt dans l'infusion de tout cela. Et donc non, c'est effectivement très, très séduisant.
On retrouve une touche de violette un peu florale avec le côté zan. Et c'est vrai que le côté zan un petit peu exprimé comme ça, ça me rappelle certains vins de chez Renaud.
On a fini la saison avec un vin de Renaud
L'année dernière.
L'année dernière et qui avait un petit peu cette... Voilà, ce côté charmeur là, tout en légèreté, en infusion, je suis d'accord, c'est pas
velouté.
Lourd. En velouté en plus, il y a un grain.
Là, c'est plus velours, parce que c'est différent, hein. Faut pas non plus dire que c'est comme un Renault, c'est pas du tout la même couleur déjà. Et puis la texture en bouche est différente, mais on retrouve un arôme qu'on retrouvait assez typiquement dans le Renault, qui est le côté un pesant, un peu le cachou de papille. Et du coup, sur ce vin là aussi, ça rappelle les vacances de son enfance dans le sud, et voilà, c'est un petit retour vers l'enfance.
C'est charnu, je trouve ça assez sexy comme vin en fait, et ça fait partie des belles appellations du Languedoc. Pour moi, il y en a trois qui sont auxquelles je m'intéresse particulièrement. Donc il y a la Livinière, qui s'appelle encore Minervois la Livinière, Terrasse du Larzac bien sûr, magnifique, et Faugère.
J'espère avoir mis Limoux sur ta prochaine liste. Merci. De listes.
Et Limoux.
À propos des régions, des appellations, donc on vient de parler.
Encore une fois, c'est hyper dynamique, parce qu'on a encore des choses qui sont à des prix abordables. Encore une fois, c'est parce qu'il y a beaucoup de renouveau. Hein, une des difficultés, une des forces aussi de la Loire, etc., c'est qu'on a des hectares à 15 000 euros versus 1,5 million. Donc forcément, pour amener de renouveau, quand on n'a pas de 100 nouveaux qui est là-dedans, donc là, il y a des territoires qu'on reconquiert dans les hauteurs, beaucoup, qui apportent cette fraîcheur. Et puis on a beaucoup de nouveaux vignerons. Et qui sont justement, entre guillemets, pardon l'expression, picousés un petit peu à une approche biodynamique et à approche hauteur. Alors lui, c'est pas quelqu'un de vieux, mais effectivement, Terrasse du Larzac, pour y être allé il y a pas très très longtemps, et pour être moi aussi fan des Terrasses du Larzac, on a beaucoup de nouveaux vignerons qui arrivent avec ces visions-là et avec une émulation des uns vis-à-vis des autres pour travailler sur
ça. Terrasse du Larzac, ils étaient une trentaine de vignerons il y a 10 ans, ils sont 110 aujourd'hui. C'est une des zones en Europe qui a été la plus tourmentée, donc il y a un terroir qui est hyper diversifié, qui est super intéressant, avec de l'altitude justement, il y a une amplitude thermique qui est très importante, des terroirs hyper diversifiés. Alors on passe par les quatre aires géologiques successives, et bon, pareil, la Livinière, terroir très diversifié, très intéressant, Faugère aussi avec le schiste, qui est quand même quelque chose qui est recherché. On retrouve cette tension qu'on va avoir dans certains vins allemands, même bon, s'il y a le côté solaire, hein, mais moi j'aime cette confrontation justement sur les vins du côté solaire et du côté fraîcheur qui est apporté par l'altitude, la montagne, etc. Pour moi, des goûts qui sont vraiment, vraiment dans l'air du temps, avec des terroirs qui sont remarquables. Et c'est notre avantage à nous en France, c'est l'avantage géologique.
Ce millefeuille de terroir.
On a 50% des sols calcaires.
Argilo-calcaires.
Ouais, du monde, alors que 90% de la planète n'est pas argilo-calcaire. On a un gros avantage géologique avec une diversité extraordinaire, avec des terroirs qui sont quand même fascinants. Et on les exploite.
C'est amusant que tu mettes. Terrasse du Larzac sur le même pied que Faugère, parce que l'impression que j'ai, moi, c'est que Faugère s'est un peu endormi sur sa réputation. Ça faisait partie des appellations du Languedoc assez ancrées, quoi, enfin, qui avait une notoriété. Et on a l'impression d'une forme d'endormissement où là, plutôt Pic Saint-Loup et Terrasse du Larzac ont complètement pris le lead, et aujourd'hui, tout le monde demande ce type d'appellation.
Faugère est plus ancienne dans l'obtention de son appellation d'origine contrôlée. Terrasse du Larzac, là, ils ont eu l'appellation il y a 5 ans seulement. Moi, je trouve que Faugère, ça goûte super bien en ce moment. Ils ont un vrai travail. En fait, ce sont trois appellations et d'autres encore en France comme ça, hein, qui vont s'inscrire dans une même optique, qui ont misé sur la collectivité. Donc il y a un vrai travail collectif qui a été opéré. Tu vois, si on prend Faugère, par exemple, 40% de Faugère a une certification biologique contre 11% dans la région. 80% ont un titre, essayer d'obtenir un titre, une certification, pas forcément bio, mais il y en a d'autres aussi. Donc il y a une vraie dynamique éco-responsable, et il y a une émulation collective. Et en fait, quand les vignerons comprennent qu'ils ne sont pas en concurrence les uns avec les autres, mais que c'est important qu'il y ait un esprit de groupe, de collectivité, généralement, ils performent mieux individuellement et collectivement aussi pour leur appellation et pour la marque que représente leur appellation d'origine contrôlée.
Mais j'ai ressenti ça aussi sur Saint-Chignan, justement. Tu parlais de schiste. C'est une appellation qui a vraiment, où les vignerons, on a l'impression qu'ils ont vraiment plaisir à travailler ensemble et vont dans la même dynamique. Et je pense que c'est une des clés du succès, effectivement, des appellations.
C'est ce que j'allais dire, dans une région totalement différente. Ouais. La Loire est assez solidaire. Ça bouge bien.
La Loire, le Muscadet, mais parce qu'il y a des conditions et des facteurs qui sont réunis pour...
Ils ont souffert de leur passif,
ouais. Comme le Languedoc. Bah, le Languedoc, ça a quand même été des crises successives, exode rural, ensuite guerre, guérilla contre le négoce, ensuite politique d'arrachage complètement en réforme. Muscadet, ça a été... ils ont eu des rendements beaucoup trop élevés, ils ont fait des vins qui étaient vraiment... pas terrible, pour pas dire autre chose, merci.
Non, faut le dire.
Et il y a des vignerons qui sont jeunes parce que c'est accessible, il y a une nouvelle émulation, il y a une dynamique de groupe portée aussi par des vignerons qui veulent bien faire. Je vous dis, il y a quand même cette dimension d'intention qui est importante et sous-estimée dans la viticulture.
Une chose qui est moderne maintenant, c'est effectivement, si on parle de modernité, c'est qu'il y a du sens en fait. C'est que tous ces gens-là, enfin, les statutaires de Bordeaux, de Bourgogne, etc., leur sens, c'est de faire du business et d'assurer, je dirais, la pérennité de la famille ou du business. Ces gens-là, ils trouvent un sens un petit peu ailleurs. On a parlé dans le Jura, c'est pareil. Il y a beaucoup de... Il faut toujours un ou deux fers de lance. Qui sont, auvernois, Tissot dans le Jura, mais on avait vu des Laborde, des jeunes, etc. Mais, donc il y a un sens de la communauté, de bien faire les choses, au-delà de l'aspect auto-centré de la famille et du business. Et encore une fois, ça se joue dans la distance qu'on a par rapport à son vignoble. C'est-à-dire que plus on est proche du vignoble, plus on le travaille, plus on approche, entre guillemets, de vignerons et de paysans, plus on a envie d'y mettre du sens et d'être sur des vins d'auteur, etc., etc. Donc c'est encore une fois...
Vous n'avez pas parlé d'Alsace. Monter
du sens.
Moi, je peux en parler très longtemps, l'Alsace. J'adore l'Alsace, j'aime énormément le Riesling. Ils ont une approche qui est différente du reste de la France, puisque c'est une approche cépage.
Il y en a qui se mettent en retrait par rapport à ça.
Qui
essayent de pousser les appellations. Et ils ont un problème
avec
le sucre.
J'adore l'Alsace. Enfin, ils ont un problème vis-à-vis des consommateurs avec le sucre. Alors, on parle de tendance. Le sucre, ce n'est pas tendance. La tendance, c'est le bone dry, comme disent les Anglais. Le plus sec possible.
Sur le squelette.
Sec à l'os.
L'Alsace, ce n'est pas à la mode sur le côté sucré. Sauterne, alors là, on n'en parle même pas. C'est totalement has-been. Personne n'en veut.
Alors que le Tokaj est assez fashion en ce moment.
Le Tokaj, le vin hongrois.
Ouais. Oui, mais de plus en plus. Mais bon, après, ça reste des vins de niche, mais ça, j'en vois apparaître de plus en plus sur le marché français.
Il faut voir après le prix, sucre, ça sort aussi.
Eh ben, ça peut sortir pas très cher justement, moins que des sauternes. J'en ai vu notamment en foire au vin, puisque c'est la période en ce moment qui était pas mal du tout et qui était pas cher. Et
j'en ai goûté un très bon jeudi dernier. On était quand même à 25 euros au prix d'achat professionnel, la petite bouteille. Donc, voilà. Par contre, c'est extraordinaire. Alors ouais, là, c'est très rien à redire. C'est magnifique. Voilà. Mais bon.
On a parlé donc de cépages de région. On va évidemment pas toutes les faire. Je veux juste faire une petite parenthèse sur les accords qu'on pourrait faire avec ce vin qu'on est en train de déguster. On est en train, j'en profite pour le dire, de le manger, de le boire avec des jolies charcuteries et des jolis fromages made in Wine Therapy. Enfin, ce sont les produits que tu sers.
J'aimerais les faire moi-même, mais
tu ne les fais
là,
pas toi-même.
Je me les procure.
Ce sont les produits que tu sers au bar. Rapidement, qu'est-ce qu'on mange ?
Alors, on a quelques tranches de cecina, donc de la viande de bœuf fumée séchée, originaire du León en Espagne. On a un chorizo de bellota, du fouet catalan, un serrano de 24 mois, on a de la langue de bœuf séché et fumé.
On a ça ?
En général, je ne dis pas que c'est de la langue à mes clients.
Ah, excellent.
Parce que autant ils aiment tant que c'est du bœuf, mais dès qu'ils savent que c'est de la langue, d'un seul coup, ils sont dégoûtés. Je sais pas pourquoi.
Les Américaines, là, tu leur sers ça avec un chardonnay, là, c'est mort.
Et pour les fromages, bon, on a un petit chèvre du Poitou, on a un bleu de Savoie, un reblochon et un montgranier. Voilà ce qu'on a.
Merci Laurent.
C'est délicieux.
C'est très bon, en effet. Et ça marche très, très bien avec ce rouge onctueux, tout en charme. Patrice, tu vas nous servir un troisième vin.
Alors, il faudrait d'abord que vous finissiez vos verres.
Et je vous propose de finir. Ah ouais, non, c'est staccanoviste ici.
Moi, si je peux rajouter, parce qu'en ce moment, on est à fond sur l'agneau. L'agneau là-dessus, super.
Moi aussi, on a une correspondance. Moi aussi, je pensais agneau, prudeau, tagine, des choses comme ça.
Avec ce vin-là.
Tagine, ouais. Ouais, effectivement. Ouais.
Ouais. Agneau avec abricot, avec un peu avec herbe de Provence. Là, c'est chouette.
Tagine, agneau, pruneau, je le note.
Mais même sans rien, c'est très bien.
Absolument.
Cela dit.
J'ai envie qu'on finisse ce tour autour de la modernité, les tendances, avec d'autres choses que les cépages. C'est un peu les métiers. Y a deux métiers ici représentés, hein, celui de caviste sommelier, Laurent Florence. Est-ce que ce métier-là évolue? Et après, on finira peut-être en parlant du métier de journaliste, Gabriel. En quoi il évolue lui aussi grandement? Ah, Laurent, il se prend des politesses. Alors, okay. Au micro. Florence.
Moi d'abord, le métier de sommelier évolue, pas tant le métier en lui-même, le conseil de vin, tout
déjà,
ça.
Déjà, le sommelier moderne est une femme, déjà, on peut le dire.
Le sommelier moderne est une femme parce que toutes les femmes ont déchiré sur les concours.
Exactement.
Mais le métier évolue, c'est un truc un petit peu plus technique de la restauration. Le métier évolue, c'est-à-dire que le nouveau sommelier... Il ne veut pas venir à 9h le matin à la cave pour faire sa remontée de cave, faire son service du midi, partir à la fin de son service du midi à 2h de l'après-midi et revenir à 17 ou 18h, faire son service du soir et rester jusqu'à minuit ou 1h du mat avec ses clients. Le nouveau sommelier, il veut des horaires en continu. Et voilà, c'est un truc un peu technique, mais voilà, le nouveau sommelier, il veut arriver et faire ses... il ne veut pas faire 12 heures de travail dans sa journée, il veut en faire 8, et il veut les faire en continu, pas 4 le matin à l'arrache et 6 ce soir. Voilà.
Ça, c'est incompatible avec juste la restauration, parce qu'on ne va pas venir manger à 4h de l'après-midi, on vient manger à midi, puis on vient manger
deux
le soir.
Équipes. Il faut deux équipes.
Il faut deux équipes.
Demande voilà. C'est quoi le nouveau sommelier.
C'est
je
pas
te
le
dis,
nouveau
c'est,
sommelier,
c'est le nouveau
ça, c'est
sommelier.
Les nouvelles générations.
C'est la nouvelle génération. Mais
attention.
Il va falloir réfléchir parce que.
Vous allez nous dire que c'était mieux avant, attention.
Ah, moi, je ne dis pas que c'est mieux avant.
Non, justement, je ne dis pas que c'était mieux
avant. Le confort de vie passe avant.
Je dis qu'il va falloir commencer à réfléchir, à adapter nos métiers parce que quand tu n'as jamais ton samedi, tu n'as jamais ton dimanche, qu'en plus tu fais des horaires de coupure. Que tes jours ils sont peut-être pas forcément les deux jours à la suite. Oui, va falloir réfléchir à nos métiers de la restauration, à s'adapter.
On sent que t'as pas pris de vacances. Hein, tu disais tout à
Le sommelier moderne, il part en vacances.
C'est une manif, hein, c'est plus une émission de radio. Là.
Non,
une
voilà.
revendication du sommelier.
Non, mais parce que nous, on a été pendant une longue période où il nous a manqué du monde et on a été pendant près de 6 mois en période de recrutement et voilà ce qu'en est ressorti de ces 6 mois d'entretien d'embauche. Il en est ressorti que le sommelier de nos jours n'a pas envie de faire les horaires du sommelier d'hier.
Si vous souhaitez envoyer vos candidatures, Florence, @laterraboire.com, je vais t'ouvrir une adresse. Ça marche. Ou alors écrivez à Romain ou la terre à boire et je transmettrai. Laurent, toi, alors, dans ton métier de caviste...
Qu'est-ce que c'est le nouveau caviste? Moi, je suis un peu jeune en tant que caviste pour en parler. Je peux juste dire que je vois un développement exponentiel de l'ouverture des caves et que la plupart du temps, les cavistes ont un peu le même profil que moi. C'est-à-dire que c'est souvent des reconversions professionnelles de gens qui veulent donner du sens à leur vie professionnelle, qui sacrifient une bonne partie de leurs revenus pour faire quelque chose qui leur plaît vraiment. Voilà, moi, après, ça, c'est mon expérience, mais c'est en rencontrant des gens comme ça aussi que j'ai décidé de le faire.
Tu sais que tu as un sketch là-dessus, d'ailleurs.
Oui,
je sais plus comment
qui est très drôle.
Ouais, Nora Boisier.
Oui, exact. C'est le cliché du...
Oui. Nora Hamzaoui.
Oui.
C'est ça ? Oui, il est très drôle. C'est le cliché du caviste.
Dans la com et j'ai ouvert mon...
Voilà, c'est ça.
Bah, avec
ça.
Des vins naturels.
Bah, c'est toi, en fait.
C'est tous entendu, celui-là.
On me l'a envoyé. Je l'ai reçu un nombre de fois assez incalculable. Donc, c'est bizarre. Beaucoup de gens ont pensé à moi, effectivement, en voyant ce sketch.
J'ajouterais un truc quand même. Le caviste, aujourd'hui, il doit être quand même présent... sur le digital, hein, les réseaux sociaux, le ranking.
Le vigneron moderne, le sommelier moderne, je pense que.
Exactement, et le journaliste, on va en parler peut-être avec toi.
Le digital fait partie effectivement de notre vie. Bon, on n'est pas toujours.
Non, mais la force de la recommandation, je le dis parce qu'on a l'occasion des fois d'en parler quand je viens à ton bar, mais la force de la recommandation de quelqu'un qui est venu, qui a aimé, qui met une bonne
note. Les réseaux
note,
sociaux, les notes sur Google, les avis sur TripAdvisor, ça fait partie. Mais là, ça dépasse le cas du caviste. Là, c'est vraiment sur la partie restauration, bar, quoi, parce que les cavistes, ouais, peuvent être notés sur Google, mais je pense que c'est moins significatif que l'activité d'accueil des clients.
La prestation d'ensemble.
Quand on est dans le service de restauration, là, on a un vrai impact des sites comme TripAdvisor ou Google sur notre fréquentation.
Le caviste, c'est encore le bouche à oreille,
oui.
Encore.
Oui.
Gabriel.
C'est lié au quartier aussi. Et ben, ça me permet de faire la transition sur une partie de mes activités, dans le sens où effectivement, le pouvoir de l'individu est diminué en faveur de la vie de la collectivité. Donc là, TripAdvisor, ça fait le rôle qu'avait un critique avant. Le journaliste 2.0 doit tout faire, il doit être photographe, il doit tweeter, il doit Instagrammer, il doit Facebooker, il doit être bon devant la caméra, derrière la caméra, il doit écrire, il doit bien écrire, il doit bien s'exprimer, c'est un métier. À mesure que les médias mutent, le métier de journaliste mute aussi, et c'est assez intéressant parce que ça oblige à apprendre plein de choses. Moi, à Noël, j'ai pris des cours de Adobe Premiere, de montage. Donc ça oblige à avoir un panel de compétences qui est différent. Bien sûr que le digital est important et fait partie aujourd'hui du métier, de la communication, et on doit être à l'aise avec ça. Moi, j'avais beaucoup de mal au début, je me suis forcée à aimer ça. Et j'aime bien maintenant, je suis même un peu accro, je trouve ça même un peu triste. Je tremblote quand j'ai pas consulté mon compte Instagram pendant plus de 12 heures, comme quand j'ai pas bu un verre de vin pendant à peu près la même durée.
Ça, c'est la dépendance, ça, c'est autre chose.
On
parle de dépendance, effectivement.
Patrice, on va finir avec ton vin. On a encore le temps de parler d'un vin et tu vas nous dire en quoi, pour toi, c'est un vin de 2019-2020, un vin bien d'aujourd'hui.
Alors, c'est un vin qui est un petit peu âgé déjà. Enfin, il est de 2007, c'est un Clos Milan de 2007, dans sa version rouge. Alors, c'est un vin...
Milan,
on est en Beaux-de-Provence, on est à Saint-Rémy-de-Provence. Alors, pour être précis, on est en VDF. Donc on s'est abstenu de l'appellation puisqu'il ne rentrait pas dans les canons. Donc une des choses modernes aujourd'hui, c'est définitivement de sortir de l'AOC et de faire des vins d'auteur. Et de... Les 20-30 ans, en fait, les personnes qui ont 20 et 30 ans, donc il n'y a pas beaucoup autour de la table, en tout cas pas moi, s'intéressent beaucoup moins à l'AOC qu'à...
Dans la prochaine émission.
Voilà, non, mais s'intéresse beaucoup moins à l'AOC qu'à ce qu'exprime le vin et le fait que ce soit un vin d'auteur. Donc là, Henri Milan, lui, est sorti volontairement de l'appellation. Deuxièmement, c'est un vin qui est complètement en biodynamie. Alors, bien en biodynamie. C'est-à-dire que, fait selon les préceptes de Steiner, juste pour info, les vignes ont été plantées en 98 par Henri Milan, ces vignes-là, le Clos Milan, sur un principe qui s'appelle réseau Hartmann. Donc, c'est juste le nombre d'or qui sépare les vignes. Donc, le nombre d'or, c'est... Pour mémoire, 1 plus racine de 5 divisé par 2.
Absolument.
1,618, bon, c'est pour l'anecdote. C'est le bout de la logique de la biodynamie qu'a fait Milan. Il a rencontré Claude Bourguignon dans les années 80 et il s'est lancé aussi en 88, je crois, comme la Loubise Leroy d'ailleurs, dans cette approche biodynamique. Et c'est complètement biodynamique parce qu'aujourd'hui, on est le 9 septembre, qui est un jour fruit.
Donc, quelle chance on a.
Exactement, et en plus il est 21h.
On a jusqu'à 21h selon
d'accord, donc on est
certaines applications pour goûter les vins.
Voilà.
Donc on est wine.
Wine.
On est au bout de la logique. Donc là, donc on est complètement en biodynamie, même dans le théorique, en tout cas, le paradigme théorique et le paroxysme de la dégustation.
C'est très très bon. C'est encore extrêmement vif, je trouve. Il y a une vivacité là-dedans.
Il y a beaucoup d'élégance. Il y a un squelette, c'est dentelé, c'est vraiment
Donc là, on est 80% grenache et 20% syrah.
Et très juteux.
Voilà. Ce qui est aussi moderne, c'est que ça l'est plus, c'est qu'on ne boira plus jamais ce vin, puisque ces vignes-là ont été arrachées en 2011 et remplacées par d'autres, donc ça fait partie de l'approche. Donc c'est éphémère, en fait. C'est-à-dire que ce vin-là, il n'y en avait pas beaucoup. Il a été fait en biodynamie et il n'y en aura plus jamais du comme ça, puisque ces vignes-là, en tout cas, ont été arrachées en 2011.
Merci de nous avoir
merci pour ce cadeau.
Donné cette belle opportunité.
Voilà, donc la modernité, c'était le côté, effectivement, le fait qu'on soit en biodynamie, parce que je pense que c'est quand même une tendance malgré tout. Et encore une fois, on a dit, beaucoup des plus grands vignobles du monde, alors sans, ils ne le disent pas forcément, mais sont souvent proches de la biodynamie. Joli, la Loubise-le-Roi. Renaud, je ne sais pas comment il est. Mais sont dans cette logique-là. Et voilà, encore une fois, il y a une libération particulière, et c'est, pour le coup, c'est vraiment un vin d'auteur, quoi.
Le vin moderne est donc un vin d'auteur, il est bio, plutôt en biodynamie.
Il y a un retour en arrière finalement.
Il se boit un jour fleur, absolument, il y a un retour en arrière. Tu sais, on a fait l'année dernière...
Oui, mais avant le jour fleur, on regardait sur son calendrier papier. Au jour d'aujourd'hui, on regarde si c'est par le biais de l'application, si on est en jour fleur ou si on est en jour feuille. Mmh. Voilà, on est moderne.
Il y a une appli.
Tout à fait. Et puis en France, on a quand même un climat. C'est à la fois, il y a un retour en arrière pour la viticulture et il y a une progression dans tout ce qui est communication. On a quand même une loi extrêmement contraignante en France avec la loi E20. Heureusement que les réseaux sociaux nous offrent, qui sont sous-exploités hein, d'ailleurs dans le vignoble, nous offrent la possibilité de communiquer sur les vins et au sens plus large sur l'univers et l'ADN d'un lieu. Et c'est un bon outil. Mmh.
Le vin, les vins de ce soir, je ne sais pas s'ils étaient modernes, mais ils étaient tous très très bons. On va les rappeler. Le domaine des Hautes Terres en Limoux, qu'on peut trouver au Wine Therapy, je suppose.
Tout à fait.
Et que tu vends à combien? Alors, on aime bien donner les prix des vins ici.
Sur place, la bouteille est à 29 euros.
Et quand on l'emporte?
22.
Voilà, c'est moins cher. Le clos, en deuxième, on a bu la cuvée Scylla du domaine Bory de Morel, en appellation Minervois. La Livinière, ça c'est une bouteille que j'ai trouvée à 25 euros chez un caviste que j'ai découvert qui s'appelle Les Vignes de France, dans cette jolie bourgade Le Chêne, dans les Yvelines. Voilà, je suis allé jusque là-bas, mais des garçons charmants qui m'ont parlé de ce vin, qui étaient ravis que je vienne chercher ça, sur le conseil évidemment de Gabriel, puisque c'est le vin que tu souhaitais présenter. Et enfin, le Clos Milan que tu nous as montré, Patrice.
2007.
Et là, on est plutôt autour de 35 euros.
À l'époque, 35 euros. Aujourd'hui, il est plutôt à 50, mais à l'époque, je l'avais acheté 35.
Ah, c'est ça. Merci à tous autour de la table d'avoir ouvert cette saison, cette nouvelle saison de La Terre à Boire. Merci à Benoît, qui n'a pas parlé, mais qui nous a servi des verres, voilà, quand il ne faisait pas tomber des objets par terre. Merci à Jonathan qui a même pris quelques photos qu'on va pouvoir diffuser sur le site web et en même temps que les épisodes. C'était un grand plaisir de vous avoir. Merci Gabriel.
Merci à vous. Bonnard. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup de m'avoir accueilli.
Merci à toi. On est ravis. Tu ouvres la saison. On te retrouve évidemment sur le site gabrielvitzavona.com, sur un compte Instagram qui est fourni, des belles photos.
J'essaie.
Avec toi en voyage. On aimerait toujours être là quelque part à déguster des beaux vins dans des beaux endroits. C'est la magie d'Instagram, le beautiful world of Instagram. Merci à tous. On en profite pour souhaiter un bon courage aux vignerons qui ont déjà commencé les vendanges, qui sont en plein dedans ou qui vont bientôt les commencer, comme c'est le cas de Philippe qui était en train de faire ses contrôles de maturité ce matin. La Terre à Boire aussi, vous pouvez la suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et même sur un site, laterreaboire.com, sur lequel vous allez retrouver toutes les émissions. Dans le prochain épisode, nous allons parler de formation, comment apprendre le métier de sommelier en compagnie d'un prof et d'une élève, la formation, si ça vous intéresse aussi, vous avez qu'à rester. Gabriel, tu donnes des cours aussi,
beaucoup.
Donc la formation, ça te concerne également. À bientôt.
À bientôt, merci.
Au revoir.
Salut.
Au revoir.
Salut à tous, bye bye. Whatever.